Bonjour et bienvenue sur le podcast Avoir 30 ans. Pour ce nouvel épisode, je reçois Ambre, une coach de vie qui va nous parler de la crise de la trentaine et comment y faire face. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, pour ce nouveau numéro du podcast Avoir 30 ans, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ambre. Bonjour Ambre.
Salut Amélie.
Merci de participer avec nous. On va aborder aujourd'hui évidemment le thème de la trentaine, mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que à la fois tu l'as vécu et puis à la fois tu as carrément décidé d'en faire un peu ton métier et tu vas nous raconter tout ce qui t'a mené, toutes les réflexions qui t'ont mené jusqu'ici. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et te présenter ?
Oui, bien sûr. Comme tu as dit, je m'appelle Ambre Arcangeli et j'habite dans le sud de la France. Donc j'ai 29 ans, j'ai bientôt 30 ans, mais pas encore, c'est dans quelques mois. Et donc j'ai fait mes études de droit à Aix et après je suis partie travailler pendant 5 ans à l'étranger. J'ai travaillé dans la diplomatie culturelle et j'ai bossé en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et en début d'année dernière, en fait, je suis rentrée en France parce que j'ai fait ma crise de la trentaine et une de mes résolutions, c'était une de mes envies, c'était vraiment de rentrer en France. Et donc un petit peu comment ça s'est passé ma crise de la trentaine et mon parcours. Il y a 2 ans, j'habitais aux États-Unis dans un super appart où je gagnais de la vie et j'avais un super boulot. C'était aussi dans une relation longue de 5 ans, mais voilà, je me sentais hyper triste, vraiment pas épanouie malgré toutes ces cases que je cochais. Et donc là, crise de la trentaine où j'ai décidé de rentrer dans mon petit village dans le sud de la France. Donc c'est à côté d'Aix, c'est le village de mes parents. Je retourne vivre chez papa-maman. Je touche le RSA et je retrouve une vie célibataire avec une vie une rupture un peu difficile. Et vraiment, j'étais perdue dans ce que je voulais faire de ma vie. Donc un peu sentiment de grosse panique. Et après avoir fait un travail hyper intense de plusieurs mois sur moi-même, c'est vraiment l'après-crise de la trentaine. Maintenant, c'est un travail que j'adore, qui a vraiment du sens pour moi. Je suis dans une relation personnelle extraordinaire et j'habite dans le sud de la France, dans une jolie petite maison. Et vraiment, ça y est, j'ai l'impression d'avoir passé la tempête et d'être enfin dans la vie, dans une vie qui me plaît. Et donc maintenant, je suis coach de vie certifiée et donc praticienne en PNL, en hypnose et en EFT, et qui sont des techniques et des outils que j'utilise pendant mes coachings et qui permettent d'avoir des résultats assez rapides et durables et des déclics, en fait, et pas faire forcément 15 ans de thérapie. Et c'est vrai que coach de vie, c'est un métier qui, à mes yeux, me fait me sentir hyper utile, où j'ai l'impression un peu que c'est mes qualités intrinsèques, tu vois, sont mises au service du monde et vraiment atteindre les gens, aider les gens à atteindre leur potentiel et créer une vie qui leur plaît. C'est un sujet que j'adore, c'est un sujet qui m'obsède. Donc en quelques mots pour une petite présentation.
Alors, on va parler de ton nouveau métier de coach, en quoi ça consiste et comment ça se passe. Mais avant, je voulais revenir sur ce que tu appelles la crise de la trentaine alors que tu as 29 ans. Donc déjà, ça part mal parce que tu as fait une grosse crise alors que tu n'as même pas soufflé ta 30e bougie. Quand tu dis que tu étais triste malgré le fait que tu cochais toutes les cases et que tu avais toutes les raisons d'être plutôt heureuse et épanouie, ça se manifestait comment ? C'était quoi qui te manquait dans la journée ? C'était un sens à ce que tu faisais ? C'était une motivation ?
En fait, c'était bizarre parce que vraiment sur le papier, comme tu viens de dire, je cochais toutes les cases et en fait, j'avais atteint une sorte d'idéal. Enfin, j'ai fait toutes mes études pour devenir attachée culturelle et je pense que c'est d'avoir atteint ces objectifs qui a déclenché ce besoin de rupture. Et au quotidien, ça se manifestait comme un sentiment de vide, un peu. Il manque quelque chose. Je vis dans un appart plutôt cool, dans une vie que j'adore. Mon métier, il est bien, il devrait me convenir épanoui. Mais il y a un truc qui manque. Enfin, c'était vraiment une sensation de vide dans mon cœur, dans ma vie. Et je me suis dit, mais c'est quoi en fait ce sentiment qui est trop bizarre? Et c'était vraiment un sentiment de manque, de vide, de pas être à ma place aussi, de me dire ce que je fais là, c'est bien, mais j'ai l'impression que ma place est ailleurs, en fait. Et ouais, un sentiment de pas être là où je devrais être.
Ce que tu dis, ça me rappelle un autre épisode que j'ai fait où c'était Olivia qui me parlait de ses études où, pareil, elle avait fait un parcours où tout était tracé, elle avait fait ses études. Et en fait, vu qu'elle était dans un espèce de tunnel, bah, elle n'avait pas pris vraiment le temps de s'intéresser à, au final, ce qui lui plaisait, etc. Donc elle continuait. Et puis une fois arrivée au bout, elle s'est dit « Mais mince, en fait, j'ai pas envie de faire ça. » Ou « ça me convient pas. » Et pour toi, ça a été quoi le déclencheur où vraiment tu t'es dit « Bon, je romps avec, avec cette vie qui pourtant a l'air plutôt bien, équilibrée et qui coche, encore une fois, les fameuses cases. » À quel moment tu t'es dit « Qu'est-ce qui t'a fait te dire « Allez, j'arrête tout, j'envoie tout balader. » »
Non, c'était... Je pense que c'était d'avoir justement atteint cet objectif parce que... Pour moi, c'était la consécration. Ça faisait des années que je me disais, quand je serai attachée culturelle ou attachée culturelle adjointe, j'aurai confiance en moi, j'aurai l'impression d'avoir réussi ma vie, je serai fière de moi ou mes parents seront fiers de moi, ou je serai quelqu'un d'accompli. Vraiment, pour moi, c'était l'objectif et la condition un peu sine qua non de me valider en tant que personne accomplie. Et une fois que j'ai eu ce poste, je me suis dit, ah ben non, en fait, mais pas du tout. Enfin, ok, c'est pas parce que j'ai ce poste que je me sens mieux dans ma vie, que je me sens plus utile, j'ai l'impression que je suis fière de ce que je fais. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je regarde, enfin, pas que j'aille voir ailleurs, mais que vraiment, enfin, j'aille regarder ailleurs, que j'étais pas dans la bonne direction. En fait, mon contrat à l'ambassade, il se terminait. Donc, soit je le renouvelais et je repartais ailleurs, soit je partais complètement, en fait. Et c'est vrai que l'idée de retrouver un travail dans ce même secteur, en fait, c'était juste plus vivable. Enfin, je me voyais pas, je me disais, mais je vais étouffer. Enfin, c'était devenu un peu une question, pas de vie ou de mort, mais vraiment c'était vital que je m'extirpe de cette situation. J'ai l'impression de perdre mon temps et de perdre des années de ma vie, en fait. Donc, je pense que c'était vraiment à la fois d'atteindre cet objectif, d'y être arrivée et assez tôt au final, parce que j'ai eu de la chance, voilà, d'opportunités d'y être arrivée assez jeune, bah oui, avant mes 30 ans, et de me dire non, mais c'est plus possible. Et pour petite précision, c'est vrai que la crise de la trentaine, on dit trentaine, mais de ce que je vois, et moi, comment je la définis, c'est vraiment entre 25 ans et 35 ans en général qu'elle a lieu. Voilà, c'est pas pile poil à l'année des 30 ans.
Toi, tu as décidé de changer de vie, tu es devenue coach, et comment tu as pris conscience que bah, les trentenaires avaient besoin d'aide pour trouver leur voie ou pour se retrouver, et du coup, tu t'es dit que tu allais orienter ton métier de coach pour cet accompagnement? Pourquoi les trentenaires, ils sont perdus?
Je pense que c'est à 30 ans et c'est pas pour rien que c'est autour de la trentaine, parce que justement, je pense que jusqu'à nos 22-23 ans, tu vois, on est en fin d'études, il n'y a pas encore de décalage, en tout cas de sentiment de décalage, parce qu'on n'a pas encore l'expérience. On n'est pas encore vraiment dans la vie d'adulte, on est encore étudiant, ou on a un premier boulot. Milieu de vingtaine, on est plus dans une course, je trouve, hein, dans une course à l'expérience où on se dit, ben, le prochain poste, ce sera le bon, le prochain mec, ce sera le bon. Voilà, on est en train encore de faire nos expériences. Et à 30 ans, en fait, on commence à avoir une petite idée de ce qu'est cette vie d'adulte. On commence à bien l'avoir expérimenté en termes de vie pro. On a eu, c'est peut-être pas notre premier poste, notre deuxième, troisième. En termes de vie amoureuse, on peut commencer à avoir plusieurs expériences, et on commence à savoir ce qui nous rend heureux ou pas. Et c'est vrai que selon la société, on est censé avoir tout accompli, entre guillemets, à 30 ans, et les gens autour de nous commencent à cocher les cases. On a des potes qui commencent à se marier, à avoir des bébés, et forcément, on commence à se comparer à eux. Donc c'est pour ça que ça vient à ce moment-là. Oui, comment j'ai pris conscience que les trentenaires avaient besoin d'aide? En fait, tout simplement en regardant autour de moi. Quand j'ai fait ma crise de la trentaine et que j'ai commencé à en parler à mes potes ou sur les réseaux, il y a une grande partie de mes amis ou de mes connaissances qui me disaient, en fait, partager ce malaise, ce décalage, cette vraie désillusion qui est ressentie de la vie d'adulte, et ce décalage entre la réalité qu'ils vivaient et ce qu'ils attendaient vraiment de leur vie, et ce sentiment d'être bloqué surtout. Donc voilà, je sentais que c'était un sentiment très partagé, et je me suis dit, mais si on le ressent tellement juste dans mon petit cercle d'amis, mais à une échelle plus grande, on doit être plein d'autres dans ce cas-là. En faisant des recherches sur les réseaux, en lisant des livres, en essayant voilà, de faire des recherches sur les personnes qui parlaient de ça, ben, j'ai pris conscience qu'il y avait que très peu de personnes qui abordaient le sujet, assez peu de podcasts, assez peu de livres, et même encore aujourd'hui, on n'est pas beaucoup à parler de ce sujet, on parle beaucoup de crise de la quarantaine, mais crise de la trentaine, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de sérieux là-dessus, à part des livres du genre « Au secours, j'ai 30 ans » ou le guide « SOS du trentenaire » et plein de ressources humoristiques et que j'adore d'ailleurs, enfin, c'est super, il faut dédramatiser, il faut en rire, il faut rendre ça léger, mais je trouve qu'il y a très peu de gens qui parlent du réel malaise. Je me suis dit que c'était quelque chose à laquelle je pense que je suis légitime de remédier et d'en parler parce que je l'ai vécu et je m'en suis sortie et j'ai décidé de m'équiper des outils de coaching et du subconscient justement pour l'adresser.
T'as dit un mot qui est intéressant, qui est le mot désillusion. Alors, c'est pas super encourageant, mais je pense qu'il y a, oui, cette désillusion aussi du fait que quand on arrive à 30 ans, on pense avoir à peu près mis les jalons que nos parents nous avaient fixés ou que l'école nous avait fixés ou que la société nous avait fixés, c'est-à-dire essayer de bien travailler à l'école, essayer de bien réussir sa vie, avoir un bon emploi, avoir un bon salaire, avoir tout simplement une belle vie, sauf que déjà rien n'est sûr, on peut pas s'assurer ça. Et puis après, les choses changent, les gens changent. Donc, y a peut-être cette désillusion de tout ce qu'on nous avait promis si on suivait la voie royale, entre guillemets. Il y a cette notion de désillusion et j'aime bien aussi t'as parlé de course aux expériences. Et y a cette idée que voilà, il faut essayer d'avoir fait un maximum de choses, d'avoir accompli un maximum de choses, cocher un maximum de cases. Et moi, dans le podcast et effectivement dans le tour de mes amis, ceux qui n'ont pas coché certaines cases, effectivement, ont une espèce de remise en question en se disant « Mais mince, est-ce que je ne suis pas passée à côté de quelque chose ?» ou « Pourquoi moi, ça ne m'est pas encore arrivé ?» Et c'est intéressant de voir que tout le monde a un peu cette pression. Quelle solution tu apportes ou quel accompagnement tu apportes ?
En fait, il y a vraiment deux cas qui se détachent. Je trouve qu'il y a soit j'ai tout ce que je voulais avoir et malheureusement, je suis malheureuse, mais qu'est-ce que je veux en fait ? Et moi, j'étais un peu dans ce cas-là. Et là, on va faire en fait un travail de reconnexion à soi. Soit c'est j'ai envie de ça, mais je n'y suis pas encore, je me sens en retard. Et là, justement, on va faire un travail où on va se détacher des injonctions, on va redéfinir sa notion de réussite et vraiment apprendre à tracer sa route en arrêtant de se comparer. En fait.
C'est exactement le genre de phrase qu'on entend très souvent, c'est-à-dire je comprends pas, j'ai tout réussi, enfin tout va bien dans ma vie, je devrais être super heureux, mais en fait non et je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est vrai que moi, je l'ai déjà entendu dans mes amis qu'on l'entend souvent, ou le « mais je comprends pas, il y a un problème, je suis en retard, etc. » Et donc, il faut se séparer un peu de ces injonctions. Est-ce que, donc toi, tu as décidé de devenir coach, je précise que tu as des certifications dans ce domaine, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on voit aussi que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'improviser coach ou donneur de conseils ou de leçons, et pas que dans le développement personnel. Je pense notamment à tout ce qui est financier, ou encore le poids, la santé, l'alimentation. Et c'est des gens pas certifiés qui donnent sur les réseaux sociaux des conseils à un auditoire qui les écoute et qui peuvent avoir des conseils dangereux ou faux. Est-ce qu'il faut se méfier quand on est dans la trentaine ou même pas que d'ailleurs des réseaux sociaux ? Est-ce que c'est nocif à son épanouissement ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça me rend un peu ouf, folle. Ça me rend un peu folle quand je vois des personnes déjà qui s'improvisent coach. Alors, c'est vrai que même si le secteur n'est pas régulé, il n'y a pas de formation officielle de l'État, je trouve que...
Ouais, tu peux nous parler déjà, toi, quelle certification tu as ? Enfin, du moins, on l'a dit, ce n'est pas un diplôme de l'État, mais quelle est la formation que tu peux revendiquer pour cet accompagnement ?
Oui, alors c'est une formation que j'ai faite, donc qui est au Canada, enfin qui devait être au Canada, je devais aller au Canada pour la faire, mais avec le Covid, malheureusement, j'ai pas pu y aller physiquement, donc toute la formation a été faite en ligne. Et au départ, j'étais un peu sceptique du fait que ce soit en ligne, mais du coup... toutes les techniques que j'ai apprises, je les ai apprises en ligne et je peux les faire maintenant. Enfin, c'est pour ça que je travaille avec des clients qui sont à distance. Et donc, j'ai une formation, ça s'appelle, ma formation s'appelle Yes Supply, de la formatrice canadienne Reese Evans. Et c'est une formation donc en coaching de vie, en PNL, donc programmation neurolinguistique, en hypnose. Donc, je suis praticienne hypnothérapeute et en EFT, c'est du Emotional Freedom Technique, c'est du tapping que ça s'appelle, c'est comme une sorte de d'acupuncture mais sans utiliser des aiguilles. Et pour justement revenir à la question que tu m'as posée précédemment, donc oui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach, et c'est vrai que dans le monde du coaching, il y a quelque chose que je trouve assez incroyable et pas très honnête, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas avec mes valeurs, c'est des personnes qui se proclament coach dans un secteur dans lequel elles n'ont pas forcément l'expérience. Je vois qu'il y a, et du coup ça crée un secteur pyramidal, il y a des coachs business qui se disent coach business alors qu'ils n'ont jamais eu de business.
Ils sont là pour vendre des formations, très clairement.
Voilà, exactement. Et ils se disent, donner des conseils sur comment monter un business, alors que eux, à part ce premier business de coaching, ils n'en ont pas eu avant. Ou des coachs qui se disent, je suis coach de, je sais pas, pour les personnes qui veulent publier un roman, alors qu'elles n'ont elles-mêmes jamais publié de roman. Et c'est pour ça que moi, la crise de la trentaine, je me sens légitime d'en parler et de coacher à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, et donc je peux comprendre les gens qui passent par là. C'est vrai que sur les aspects, par exemple, maternité, je me sens tout de suite beaucoup moins à l'aise, parce que je me dis, mais il y a des choses que j'ai pas vécues, il y a des choses sur lesquelles je, même si je peux imaginer, je peux comprendre, je me sens pas forcément légitime d'en parler, parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Pour moi, même si on a des outils mindset et que le but c'est d'aider la personne à évoluer dans son mindset, il y a des sujets que vraiment j'ai pas envie d'aborder sans en avoir l'expérience, et que pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui a vécu la chose pour pouvoir pleinement être dans l'empathie, dans la compassion et dans la compréhension réelle, émotionnelle du problème. Enfin, je vais pas essayer de régler des problèmes de maternité, parce que je n'ai pas vécu moi-même, et que ça, voilà, ça me dépasse.
Et puis, il faut préciser qu'un coach n'est pas un psy. Donc, voilà, ce sont pas les mêmes. On va pas consulter un coach ou un psy pour les mêmes raisons, et on n'attend pas la même chose derrière. C'est pas la même démarche.
Ouais, voilà, exactement. Et souvent, on me demande, on me dit, mais je sais pas si je peux prendre une coach, j'ai déjà un psy, ou vice versa. Et j'en parle sur mes réseaux sociaux. Les métiers, ou en tout cas l'aide, est vraiment complémentaire. Le psy, ça va faire passer de dysfonctionnel à cause d'une pathologie à fonctionnel, et le coach va faire passer de fonctionnel à hyper fonctionnel. Et quand moi je discute avec des personnes en coaching ou en appel découverte, et que je crois déceler une pathologie de dépression, d'anxiété, souvent, enfin pas souvent, mais dans quelques cas, je leur ai dit, bon, on continue le coaching, mais en parallèle, il faut voir un psy, parce que, voilà, moi, c'est en dehors de ma zone de compétence, je suis pas médecin, je ne peux pas te guérir, moi, je vais te coacher. Et donc, il y a vraiment une différence à faire, et moi, j'ai vraiment aucun problème à travailler, en binôme avec... avec un coaché qui a aussi un psy.
Je reviens sur les réseaux sociaux, parce que je voulais te demander aussi, est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu cette crise de la trentaine, ou cette impression d'avoir réussi mais d'être pas heureux, ou d'être en retard, parce que les réseaux sociaux nous balancent à la vue des tonnes d'images, soit de gens qui ont réussi, qui ont l'air d'avoir une maternité parfaite, qui ont l'air d'avoir un job parfait, qui voyage tout le temps, qui mange des brunchs tous les dimanches. Enfin bref, on a toutes les mêmes images en tête, toutes et tous. Et est-ce que tu penses pas que le fait de voir que des images qui montrent des trucs super, les gens aussi se sentent, en dessous, ou...
Si, je pense que...
Ça pousse à se remettre en question.
Ça pousse à se remettre en question, oui. Et c'est vraiment à double tranchant, dans le sens où j'ai l'impression que quelque part, les réseaux, ça dicte un idéal. Que, voilà, comme tu disais, si tu brunches pas tous les dimanches, si tu fais pas ci, t'as loupé quelque chose. Et si on n'a pas un peu l'esprit critique, si on n'est pas déjà au clair avec ce qu'on veut, et c'est vrai qu'à 30 ans, quand on est en pleine remise en question, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, on peut penser que ça pourrait être notre idéal aussi. Et pour être tout à fait honnête avec toi, il y a quelques mois, j'avais super envie d'aller vivre à Tahiti et de me réveiller le matin, faire du yoga sur la plage. Et
je peux comprendre.
Tout et voilà. On voit ça partout et ça a l'air très stylé. Mais une fois que je me suis vraiment connectée avec mes envies, je me suis vraiment projetée en me disant, mais est-ce que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de moi, ou c'est juste que c'est inspirant parce qu'on voit ces trop belles photos sur Instagram? J'ai réalisé au final que ce dont j'avais vraiment envie, c'était plutôt d'être proche de ma famille, de mes amis, d'être voilà dans le sud de la France. Je pense qu'il faut garder un esprit critique et c'est pas parce que c'est l'idéal de quelqu'un et que ça fait des très belles photos sur Instagram parce que c'est forcément notre idéal. Et après, le revers de la médaille positive des réseaux sociaux, c'est, je trouve qu'il y a une sorte de démocratisation, enfin je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas on voit plusieurs styles de vie, on voit plein de personnes qui montent leur vie à la ferme ou leur vie en ville et
ouais, de plus en plus on découvre aussi des professions ou des styles de vie un peu plus marginaux ou originaux, mais qui prouvent que bah en fait tout est possible et qu'il y a évidemment pas qu'un seul modèle ni de réussite ni de succès.
Mais exactement, je trouve ça génial parce que en voyant ces modes de vie un peu, enfin je vais pas dire alternatifs, c'est juste différent de la majorité, on se dit pourquoi pas moi. Et franchement je trouve ça génial et je trouve que ces réseaux sociaux, si on arrive à garder l'esprit critique, ça peut être une force extraordinaire.
Ok, donc on garde ce conseil. Attention quand on regarde des super photos de brunch, ce n'est pas que la vérité.
Ouais, c'est ça.
Et tu dirais, toi, que au final, ce que recherchent la plupart des gens qui viennent vers toi pour bénéficier d'un coaching, est-ce qu'ils cherchent à retrouver du sens, en fait, tout simplement, à ce qu'ils font et pourquoi ils le font ?
Tout à fait, il y a vraiment ce sentiment de perte de sens et de se dire, mais est-ce que je fais vraiment les choses pour moi, en fait ? Et si je peux donner quelques conseils, justement, à ce sujet sur comment retrouver du sens ? Je pense qu'il faut déjà se demander si ce qu'on est en train de faire a du sens pour nous ou si on le fait pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour rendre nos parents fiers. Moi, c'est vrai, quand je faisais ce métier dans la diplomatie culturelle, ben oui, clairement, je rendais mes parents fiers et oui, quelque part, mon ego, ça flattait mon ego de me dire que j'avais ce métier. Et j'ai réalisé que c'était pas pour moi, en fait, que je faisais, que oui, j'aimais bien la culture française, mais qu'au-delà de ça, c'était surtout pour faire plaisir à mes parents et que j'avais besoin de leur prouver que je pouvais être quelqu'un. Et souvent, on se rend compte qu'on fait tel ou tel métier et que ça nous va pas, parce que à 17 ans, on doit décider de se pencher, on ne sait pas vraiment ce qu'on voulait faire et on fait ça par défaut et au final on reste en mode pilote automatique car on ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir si on faisait ça pour nous ou pour les autres et voilà, on est comme on disait la tête dans le guidon. Ensuite je pense qu'il y a un vrai travail d'introspection à faire, un travail sur quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs qui guident ma vie, est-ce que c'est la stabilité, la reconnaissance sociale, le service que je peux rendre aux autres. Et un travail aussi sur les besoins, pas sur les besoins de tes parents, enfin des parents, mais sur les besoins. Quels sont tes besoins ? Est-ce que tu as besoin de stabilité dans ta vie ? Est-ce que tu as besoin d'aventure ? Et il faut se reconnecter à soi, je pense, impérativement. Et ça, on ne nous a jamais vraiment appris à le faire, au final.
Ouais, complètement, ouais. C'est effectivement, on parlait des études et jamais, alors je dis pas qu'il faut un cours à l'école, mais c'est vrai qu'on a tendance, quand on est jeune, et c'est normal, à vouloir aussi faire plaisir à nos parents ou à vouloir suivre nos amis dans la même voie qu'eux parce que voilà, on est influencé. Mais c'est vrai qu'il y a personne, à part apparemment beaucoup de gens de 30 ans, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de reconversions notamment, ne fait ce travail d'introspection qui est bien, qui peut être salvateur, hein, puisque parfois ça permet de se rendre compte et de ne pas aller de ne pas continuer en tout cas dans un mauvais chemin.
Non, tout à fait, je pense qu'on n'a pas du tout, enfin le coaching de vie en France, c'est pas du tout développé comme aux États-Unis, donc il y a beaucoup de personnes qui, même si elles ont cette envie d'introspection, elles savent pas comment faire. Et si elles ont quelque chose, c'est qu'elles veulent vraiment se pencher. Il y a un peu un jugement, je trouve. Enfin, quand on dit, je sais pas, quand on en parle autour de lui, je travaille sur moi, ça paraît tout de suite un peu égocentrique.
Ouais, égocentrique, je vois ce que tu veux dire.
Ou égoïste. Et, alors que aux États-Unis, et donc c'est là-bas, j'ai eu envie, cette première envie de devenir coach de vie. là-bas, de travailler sur soi, d'avoir un coach de vie, c'est hyper bien vu, c'est waouh, tu travailles sur toi, t'as envie de t'améliorer. Alors qu'en France, c'est un peu un jugement, c'est quoi, t'as besoin d'un coach de vie, mais t'es nulle, tu sais pas gérer ta vie toute seule.
Justement,
ou,
c'est ce que je voulais te demander, parce que toi, t'as beaucoup travaillé à l'étranger, et même là, j'ai cru comprendre que tu faisais aussi du coaching pour des personnes à l'étranger. Comment ça se passe, le passage à la trentaine dans d'autres pays? Alors, le coaching, tu viens de nous le dire, effectivement, c'est pas du tout perçu pareil, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, franchement, c'est une très bonne question et je pense que la crise de la trentaine, enfin là, tu vois, j'ai pas des clientes de partout dans le monde, mais j'ai des clientes, j'ai deux clientes en Afrique du Sud et une aux États-Unis, et il y a ce même problème aussi, mais là-bas, les personnes sont beaucoup plus motivées à investir justement dans du coaching. C'est vraiment vu comme un investissement personnel qui vaut le coup, alors qu'en France, les personnes sont encore un peu plus frileuses, se disent je vais faire tout par moi-même. On a aussi une petite fierté en France, hein, bien sûr, de se dire je vais pas me faire aider, je suis assez forte. Et au final, on peut très bien sortir de cette crise de la trentaine et je suis en contact avec plein de personnes qui ont fait un appel découverte et qui finalement n'ont pas voulu faire le coaching et qui me disent « Ah, j'ai réussi à changer mon métier » et c'est génial. C'est juste le coaching, en fait, ça va donner un petit coup de boost, ça va accélérer, c'est un raccourci vers justement ces changements quand on se sent bloqué. Et justement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut démocratiser en France, et ce serait trop bien que tout le monde ait un coach de vie, parce que enfin moi je sais, l'année dernière, donc j'ai engagé une coach de vie justement pour m'aider dans ma crise de la trentaine, et clairement c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre, parce que peut-être que si je l'avais pas eu, ben je pense que je serais retournée dans ma zone de confort, j'aurais peut-être retrouvé job dans la diplomatie et j'en serais toujours au même point. Et là, j'arrive pas à croire à quel point les choses ont changé en un an et demi, quoi.
Et du coup, bah, ça me fait la transition parfaite avec ma dernière question pour ce podcast. Le fait d'avoir donc presque 30 ans pour toi, mais en tout cas d'arriver à la trentaine, quel recul tu as sur les choses et surtout, quelle vision tu as des choses par rapport à celles que tu pouvais avoir avant ?
C'est vrai que jusqu'à l'année dernière, j'appréhendais un peu mes 30 ans. J'avais l'impression que c'était une date butoir, genre, ça y est, à 30 ans, aller au placard, on arrête de vivre, on arrête d'être saine, on se concentre sur procréer et rembourser un prêt. Et j'avais même...
Dit comme ça, c'est pas très bien vendu, hein.
Ouais, voilà, non, mais clairement, franchement, là, bon, allez, ça va être 30 ans, bof. Et je m'étais même fait la liste, enfin... qui peut être très cool à faire, hein, mais des 30 choses à faire avant 30 ans, en mode, il faut que je me grouille de faire plein de trucs fun avant 30 ans, parce qu'après, voilà, c'est la prison. Et depuis que j'ai fait ce travail sur moi, que j'ai vu que c'était possible de changer de vie à 30 ans, et que voilà, ça prenait pas des années, justement, de créer une vie qui nous plaît, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que cette décennie-là, ça va être un peu... Enfin, le mot de cette décennie, ça va être épanouissement ou éclosion. Je pense éclosion, ce serait vraiment le mot qui symboliserait cette décennie.
Non, mais déjà, c'est très positif, parce qu'au début, au début de ta phrase, tu prévoyais apparemment, après 30 ans, c'est la prison. donc là, c'est bon, on est reparti sur quelque chose de beaucoup plus positif.
Ah oui, voilà. Ah oui, et par rapport à ma vision des choses aussi... je trouvais, enfin, et de ce que j'ai compris et des leçons que j'ai pu tirer de ma crise de la trentaine, c'est que le changement, c'est pas forcément horrible et c'est pas forcément difficile. Déjà, quand on a les outils, quand on s'entoure des bonnes personnes, et quand je dis bonnes personnes, c'est pas forcément un coach, c'est vraiment de nos amis, de notre famille, qu'on a des personnes bienveillantes autour de nous. Et là, pour l'instant, je suis coach de vie, j'adore vraiment, ça me passionne, mais maintenant j'ai l'impression d'avoir dans un coin de ma tête une porte ouverte en me disant, bah, si dans 10 ans, dans 15 ans, j'ai envie de faire autre chose, de commencer une nouvelle carrière, ben, vu que je l'ai fait déjà, vu que j'ai fait cette reconversion, je me dis, mais ben, voilà, si j'ai envie, je sais pas, à 40 ans, 50 ans, de devenir agent immobilier ou prof de natation, ben, pourquoi pas. Ce serait vraiment, ça m'a ouvert un petit peu le champ des possibles et c'est hyper, c'est une bouffée d'air frais. Je pense que c'est une bouffée d'air frais dans une vision de vie.
Et bah super, c'est un bon mot de la fin.
Voilà.
Merci beaucoup pour tout ton témoignage et aussi sur quelques pistes pour s'auto... Alors, pas s'auto-analyser, mais plutôt pour mener des réflexions avec soi-même. Pas forcément sur la trentaine, mais simplement pour savoir si on est un peu là où on a envie d'être et si on fait ce qui nous correspond. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton site ou de ton compte Instagram pour les auditeurs qui auraient envie de creuser un petit peu plus la question ?
Oui, bien sûr. Alors, mon site web, c'est www.ambrearcangelicoaching.com et ma page Instagram, c'est sereine.ambre, S-E-R-E-N.ambre. Et aussi, depuis quelques semaines, j'ai aussi lancé mon propre podcast spécial crise de la trentaine et qui s'appelle Vivement 30 ans et où justement on aborde ces questions autour de la trentaine. Et voilà, c'est un bébé podcast, mais il y a plein de ressources dessus, donc ça peut être très utile pour les personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent aussi.
Ok, bah de toute façon, voilà. je mettrai tous les liens sur la page Instagram Avoir 30 ans, puisqu'on va avoir quelques publications qui seront liées à cet épisode. Merci beaucoup, Ambre.
Merci infiniment, Amélie, de m'avoir accueillie sur ce podcast. J'espère que tes auditeurs vont kiffer l'épisode. Et voilà, merci infiniment.
Et bah super, à bientôt.
À bientôt.
Un grand merci à Ambre pour avoir partagé avec nous quelques conseils de coaching en développement personnel dédiés aux trentenaires. J'espère que cet épisode vous aura passionné, mais aussi vous aura poussé à peut-être vous interroger sur ce que vous aimez et ce que vous voulez faire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Avoir 30 ans sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Et je serai ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.